L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Il est 8h, ce 22 février 1973. Russell Means, à la mine des heures sombres. Dans les creux de ses cernes, sur son visage de natif, vit le souvenir de tous ceux de son peuple qui furent massacrés par les visages pâles. Depuis toujours, ces derniers sont avides de plus de pouvoir, plus de terre, plus de cruauté aussi. Ils n'ont jamais pu s'entendre, ceux qui sont venus d'Europe et eux qui sont nés ici, sur cette terre sacrée, depuis des centaines d'années. Ses longs cheveux tressés, ses bijoux, son aura, tout rappelle au monde entier qui il est et d'où il vient. Ce matin, lui et ses amis du American Indian Movement, AIM, vont frapper un énorme coup. Ils vont occuper le site de Wounded Knee, dans la réserve indienne de Pine Ridge. Ces deux noms devraient résonner dans l'histoire américaine comme une honte nationale. Il n'en est rien pourtant. Enfin, pas encore. L'écume au bord des lèvres, galvanisée par la force de ses ancêtres, Sitting Bull ou Crazy Horse, Russell Means ne compte pas renoncer, pas avant d'avoir fait plier ce gouvernement qui se contrefiche de ce qu'ils sont et de ce qu'ils vivent. D'un geste de la main, il lance sur le petit village en contrebas de la colline son armée de quads et de pick-up. Tous les chauffeurs sont armés. C'est la guerre dans le Dakota du Sud. Il est 8h du matin, ce 27 février 1973, et c'est l'heure H de mon histoire. Quelques heures plus tôt, dans la nuit sombre et le froid glaçant, la petite bande s'est rassemblée à l'abri d'un cercle formé par les Dodge et les Chevrolet comme au creux de tipis d'une nouvelle ère. Russell Means a fait allumer un feu. Il lance un rituel qui a pour vocation de leur permettre de réussir, de se reconnecter à la Sainte Mère aussi, leur terre. Voilà ce que les Blancs n'ont jamais pu comprendre. Le lien qui les unit à ce sol est sacré. Et pour sa préservation, ils sont même prêts à mourir. Tout comme à cet endroit maudit où plus de 300 des leurs se sont fait massacrer il y a un peu moins de 100 ans. Oui, massacrer, c'est le mot. Ceux qui en parlent comme d'une simple bataille sont aveuglés, ou fous, ou les deux. Voilà pourquoi ils ont choisi cet endroit, pour envoyer un message clair au gouvernement et à l'opinion publique. À côté de Russell, certains allument des cigarettes, qu'ils jettent ensuite dans les flammes incandescentes sans les terminer. La pression sur leurs épaules est immense. Leur héritage, leur dignité surtout, tout ça est en jeu, pris dans un tourbillon duquel ils ne peuvent déjà plus sortir. La victoire ou la mort, pas d'autre choix. Ni reddition, ni arrestation, ni compromis, rien. Russell Means ne veut rien leur laisser à ces fédéraux qui rappliqueront comme des mouches dans quelques heures. Son plan tient la route, il le sait. Tout est prêt et l'odeur de la poudre, déjà, commence à caresser ses narines. Son objectif, il le regarde en contrebas de la colline. Wounded Knee, c'est la colonie de la misère. Quelques dizaines d'habitants qui dorment encore et ne se doutent de rien. Le chômage y est la norme. L'espérance de vie la plus basse de tout le pays. Les États-Unis sont la première puissance mondiale, mais pourtant, ce qu'il se passe dans cette réserve de Pine Ridge depuis trop longtemps est une catastrophe non dénoncée. Passée sous silence. En 1889-1890, le démantèlement de la grande réserve Sioux a conduit à la création de cette zone maudite sur ce sol couvert de sang. Cette réserve regroupe les Oglala, une tribu Sioux. On y compte un peu moins de 20 000 personnes parquées comme des animaux. Huitième réserve en termes de taille, au classement établi par le Bureau des Affaires indiennes. C'est de loin la plus pauvre. Pine Ridge, c'est une faille spatio-temporelle. Ce qu'on fait subir à ces gens-là en 1973 est digne de ce qui pouvait se passer au temps des colons. C'est une honte intégrale qui choquerait l'opinion, du moins si les gens le savaient. Russell Means en a les larmes aux yeux quand il y pense. Ici, le taux de mortalité infantile est de 300% plus élevé que la moyenne nationale. Et Russell lui-même est né sur ces terres. Oui, vous avez bien entendu, 300%, vous imaginez? Et cela n'élude pas tout le reste des problèmes. Depuis le taux de suicide des ados, 150% plus élevé que le reste de la population. L'alcoolisme, les soucis de santé comme le diabète et, bien entendu, la pauvreté généralisée. Ces gens sont à 90% au chômage. 97% d'entre eux vivent sous le seuil de pauvreté. Un tiers des familles n'a pas accès à l'électricité, ou pire, au tout à l'égout ou à l'eau courante. Mais comment cela est-il possible dans la nation du rêve américain? Depuis trop longtemps, Pine Ridge et ceux qui pourraient agir en son sein courbent l'échine. Alors, il est maintenant venu le temps de la vengeance. Il est maintenant venu le temps de l'action. Il est 8 heures. Et les moteurs des véhicules recouvrent la vallée morte. Pine Ridge, c'est une densité de population de 2 habitants au kilomètre carré. AIM. Ces trois lettres sont des cailloux dans les grosses godasses du gouvernement américain depuis déjà un an. Elles symbolisent la résistance. L'American Indian Movement compte Russell Means dans ses rangs depuis 1968. Il est l'un des premiers membres et celui en charge de l'organisation dans le Dakota depuis cette date. Il est aussi celui qui a eu l'idée du coup de force de 1972. En effet, il y a quelques mois, l'AIM a fait parler d'elle en organisant une grande marche sur Washington dans l'idée de commémorer les traités non respectés. Autant vous dire qu'ils sont nombreux du côté des visages pâles. Lors de cette marche, alors que le gouvernement avait promis logement et nourriture aux participants, ce fut une église pleine de rats et des mets avariés qui leur ont été fournis. On leur refusa même l'accès au cimetière militaire d'Arlington. Et là, ce fut le coup de grâce. Ils décidèrent d'investir le Bureau des Affaires indiennes et y tinrent un siège pendant une semaine. Ils avaient une liste de revendications claires, en 20 points. Malgré cela, là encore, le gouvernement n'a pas fait de pas dans leur direction. Alors c'en était trop. L'opération Wounded Knee était née. Voilà donc pourquoi ce matin, sous un grand soleil qui se lève au-dessus des plaines et de la White River, ils sont 200 à dévaler la colline. 200 au volant de quad et de 4x4 qui écrasent l'herbe sur leur passage, déboulant sur une petite colonie qui n'a pas la moindre idée de ce qui va lui tomber sur le nez dans moins de 5 minutes. Pas de résistance. Tout se met en place. À l'arrivée, Russell Means sort de son Ford et prend les commandes. Les assaillants pénètrent dans les maisons de Wounded Knee, réveillent ou saisissent au saut du lit les habitants, se lancent dans un encerclement progressif et total de la colonie. Les bâtiments, déjà délabrés, deviennent des QG. L'épicerie servira à entreposer les armes. L'école deviendra un lieu de rassemblement. Et l'église, elle, sera l'endroit dans lequel on mettra les otages. Car oui, bien entendu, il faut de quoi appâter les fédéraux. Il faut surtout se créer une tribune pour mettre à terre l'homme qui est la cible de cette invasion, Dickie Wilson. C'est pourtant l'un des leurs. Un ventripotent Oglala, le chef tribal de Pine Ridge. Mais depuis trop longtemps, il agit comme un blanc. Depuis trop longtemps, il joue les caïds. Il terrorise avec sa milice paramilitaire des gens déjà bien malheureux sans cette oppression. Alors c'est terminé. Le règne de la terreur prend fin. Là, tout de suite. Maintenant. Pine Ridge a de nouveaux chefs. Et ils vont, dans la plus pure tradition de leurs ancêtres, faire valoir leurs droits. Il ne faut que quelques heures à Dickie Wilson pour réaliser l'ampleur de la catastrophe en cours à Wanditney. Il appelle les marshals, et tout de suite, on sent comme un relent de vieille odeur de guerre indienne et les troupes fédérales partent en chasse. Ils sont plus de 2000 à se mettre en route et cernent instantanément la petite colonie assiégée. Commence alors la seconde partie de l'action. Russell Mintz et les siens, eux, entendent au loin les cris des femmes, des enfants et des vieillards massacrés par le 7e de cavalerie en 1890. Leurs esprits sont là, à leur côté, et ils crient vengeance. Notre histoire commence 83 ans avant cette prise de pouvoir forcée à coups de pick-up et d'armes à la main. Oh, le contexte était bien différent. En ce 29 décembre 1890, sur le même territoire, un campement de la tribu des Lakotas, de grande ampleur, est encerclé par un régiment de cavalerie américain. Le temps est terrible. La neige tombe en abondance dans le Dakota du Sud depuis des semaines. La situation, elle, est périlleuse. Bigfoot, le chef Lakota du campement, le sait. En février dernier, le gouvernement américain, vainqueur des guerres indiennes, a décidé de rompre unilatéralement, une fois n'est pas coutume, le traité d'application sur les réserves. Officiellement, le but était de réajuster les territoires. En réalité, il s'agissait de séparer les tribus, de ne pas permettre leur convergence, les forcer à s'intégrer aux mœurs et aux coutumes de l'homme blanc. Oh, pacifiquement si possible. Sinon par les armes. Comme d'habitude, quoi. C'est la même rengaine depuis des dizaines d'années. Pour ne rien arranger, les récoltes de l'année ont été ravagées par des conditions climatiques dantesques. Les tribus ne peuvent s'empêcher de penser que les esprits de leurs ancêtres ne sont plus avec eux. Alors que les chevaux ennemis piaffent et qu'ils se rassemblent en cercle avec les siens, le chef Bigfoot tourne le dos au 7e de cavalerie qui est là et qui attend. Il est terrorisé par la tension qu'il sent palpable, tenace. Depuis plusieurs mois, devant le manque de céréales disponibles, les Amérindiens ont supplié le gouvernement américain de les aider, mais les autorités les considèrent comme des fainéants et elles ont réduit de moitié leurs rations. Alors vous allez me dire, il leur reste la chasse ? Oui. Oui, à ceci près que le bison vient d'être exterminé par l'homme blanc des grandes plaines. C'est donc la famine, inévitable, terriblement féroce. Les enfants meurent au sein de leur mère. Les vieillards n'avancent plus et supplient qu'on leur offre une graine ou un morceau de pain. Ce que plus personne ne peut leur fournir. L'année 1890 a donc été celle de l'horreur pour tout un peuple, mais pourtant aussi celle de l'espoir. En effet, le 1er janvier 1889, soit un an plus tôt, une éclipse totale du soleil a lieu sur les grandes plaines. Un Indien Oglala, un certain Jack Wilson, a eu lors de cette éclipse une révélation. Il en a parlé autour de lui. Il pense avoir été envoyé comme prophète parmi les Amérindiens. C'est le prélude à ce que les natifs, puis les historiens, ont appelé la danse des esprits. Wilson prédit que l'homme blanc va disparaître à terme et que, jusqu'à l'arrivée de ce jour libératoire, les tribus devront se soumettre autant que possible. Alors vous allez me dire, bonne aubaine pour le gouvernement qui se frotte les mains. Pas tout à fait. J'y viens. Tout va bien jusqu'à ce que la situation dégénère. La réserve de Pine Ridge, affamée et en guenille, se convertit en majorité aux paroles du saint homme, qu'elle refuse tout de même de considérer comme le Messie, interprétant ses paroles d'une toute autre manière. Eux croient que des vêtements sacrés pourront les protéger des balles et que les natifs arrêteront bientôt de souffrir. Néanmoins, l'espoir est là et ce nouveau courant de pensée fédère les tribus. Et ça, les agents indiens au service du gouvernement ne veulent pas l'envisager. Ils se retrouvent débordés dans leur surveillance et leur action visant à contenir ce mouvement qui pourrait, et c'est la crainte des troupes américaines, inciter les tribus à se révolter. La célèbre bataille de Little Big Horn n'est pas si loin. Parmi les chefs les plus célèbres dans les environs, vous avez Sitting Bull, une légende vivante. Il ne se convertit pas, mais dans son extrême bonté, autorise la liberté religieuse. Le gouvernement, qui le croit sous la coupe de Wilson, ordonne son arrestation. Nous sommes alors au début du mois de décembre 1890. Le 15, pour être exact. La neige est déjà tombée. Les estomacs ne gargouillent même plus tellement la faim se fait sentir. Nous sommes face à une catastrophe humanitaire de premier plan. Ce jour-là, une tragédie va se jouer. Une quarantaine de policiers amérindiens sont chargés d'arrêter un seul homme. Et, comme c'est souvent le cas lors d'échauffourées entre oppresseurs et opprimés, on ne sait pas comment le feu est mis aux poudres, mais un incident éclate. Un premier coup de feu, en entraînant un deuxième, puis une multitude, qui conduisent à la mort du chef des chefs, Sitting Bull, gît face contre terre, au milieu des siens. Pour les tribus amérindiennes, c'est une véritable catastrophe. Sitting Bull a reçu une balle dans la nuque, à côté de son fils, lui aussi assassiné. Alors, je vous laisse imaginer l'état de tension. On a franchi un palier significatif. On assiste à de nombreux mouvements de tribus au travers des grandes plaines, soit pour se sauver, soit pour rejoindre des groupes plus grands. Certains arrivent dans la tribu de Bigfoot, qui rejoint bientôt celle de Red Cloud, mais voilà. Alors qu'ils ont de la neige jusqu'aux genoux, rien ne va se passer comme prévu. Ces mouvements de population au sein des réserves n'avaient pas pour but de se convertir aux croyances du nouveau Messie, simplement à se prémunir de nouvelles tensions. Mais la cavalerie a cru le contraire et souhaite toujours contenir le mouvement spirituel. C'est pour cette raison que les autorités cherchent à les convoyer de force par chemin de fer vers le Nebraska. En plus, ce n'est pas n'importe quel régiment qui vient encercler la tribu de Bigfoot ce matin d'hiver. Ils sont 200. Et sur leur équipement, lui, le numéro 7. En effet, 14 ans plus tôt, c'est ce même régiment qui fut totalement anéanti sur le champ de bataille de Little Big Horn. Autant vous dire qu'aucun de ces soldats n'a envie de faire preuve de mansuétude. Au contraire, tous sont très méfiants. Et l'air chargé qu'ils respirent ne convient pas à Bigfoot et aux siens. Ils ne sont pas dupes. Quelque chose se prépare. En 1973, 83 ans plus tard donc, ce sont d'autres hommes qui se trouvent sur cette terre qui a déjà connu des événements terribles. Et eux, ils viennent pour faire un coup d'éclat. Ironie de l'histoire, tout comme leurs ancêtres, en quelques heures, ils sont également cernés totalement par des agents du gouvernement. Ils n'ont pas de chevaux, certes, mais des mitrailleuses et des véhicules blindés. Le gouvernement fédéral prend très au sérieux la fronde en cours. Il connaît bien l'AIM. Et depuis longtemps, il s'en méfie. Il sait qu'on ne rigole pas avec ces gens. Et puis, cette fois, ils ont en leur possession des otages. 11, précisément. Que le gouvernement se rassure, Même si leur méthode est violente, le but de l'AIM n'est pas de tuer ces gens. Mais effectivement, ils ne se laisseront pas faire. Durant la première journée, chacun se jauge. Ce round d'observation nécessaire se termine au petit matin du 28 février, lorsque les premiers tirs sont échangés. Aucune pitié ni patience du côté des assiégés, qui sont bien décidés à montrer les dents. Des avions volent à basse altitude, des véhicules fédéraux s'approchent trop de la zone. Ils répondent à coups de Winchester dans les carlingues et dans les pneus. Non, on ne veut tuer personne, mais les instruments qui permettent de les localiser, de les débusquer, ça, c'est tout à fait attaquable. Russell Means et les siens veulent seulement qu'on les laisse tranquilles et visent tout ce qui est à portée de fusil. Très rapidement, les fédéraux comprennent que ça ne sera pas facile de négocier avec cet homme-là. Ils entament des pourparlers. Russell Means a des exigences claires et bien précises. Il demande que le Sénat américain lance une enquête contre les agissements du Bureau des Affaires indiennes du Dakota du Sud. Mieux, il souhaite qu'une commission sénatoriale reconnaisse que des dizaines de traités ont été rompus par les visages pâles, comme il les appelle avec dédain, et que cela soit considéré comme agissements criminels et illégaux. Alors vous allez me dire, à juste titre, que tout ça paraît envisageable. Mais que nenni ! Les États-Unis, en bons gendarmes du monde, refusent de se donner le mauvais rôle. La confrontation est donc inévitable. Pourtant, c'est une guerre d'usure qui démarre. Bien retranchés, les Amérindiens refusent tout compromis. Ils ont trop courbé l'échine pour se laisser faire cette fois. Trop de honte, trop de paroles non respectées qui les poussent aujourd'hui à un extrême qu'ils ne se voyaient pas envisager. La plupart de ces tribus n'ont pas de velléité guerrière, à quelques exceptions près. Ils n'ont jamais souhaité en arriver là. Tout les incite aujourd'hui à agir contre leurs valeurs et leurs convictions profondes. L'humiliation, encore et toujours. La mort de leur chef dans des circonstances nébuleuses. Leur destin entièrement entre les mains d'hommes qui ne comprennent ni leurs coutumes, ni leur désarroi. La violence, finalement, n'arrive que parce qu'ils ont été poussés dans leurs ultimes retranchements. Le soir, Russell Means vient souvent allumer un feu près des barricades pour maintenir les rituels sacrés. Ce feu est finalement le dernier héritage d'une nation d'hommes et de femmes parqués comme des bêtes en cage. Quelle différence entre un zoo et cette réserve ? Il se le demande bien. La lutte, elle, continue. Longtemps. Les premiers jours passent dans une certaine bonne humeur, malgré quelques tensions et échanges de tirs. La résistance s'organise à l'extérieur. Déjà, des renforts sont en chemin. Natifs, américains, peu importe. Tous se dirigent vers Wounded Knee avec la simple volonté d'aider en apportant vivres et matériaux. Le gouvernement américain, lui, s'impatiente. Ces derniers résistants, il va falloir les déloger, coûte que coûte.
L'heure H, Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, l'heure H se penche sur un lieu des États-Unis où deux événements tragiques se sont passés à 83 ans d'écart. Ce lieu, c'est Wounded Knee, au cœur du Dakota du Sud. Cet endroit emblématique des souffrances amérindiennes, Sioux en particulier, est au cœur d'une crise en 1973. Un peu plus de 200 membres de l'AIM, un organisme de lutte armée visant à défendre les droits des natifs amérindiens, s'emparent de la localité dans un but politique et prennent 11 otages. Les affrontements avec les fédéraux s'enlisent. Tous ont encore en mémoire les tragiques événements de 1890. Ils ont marqué d'une pierre rouge l'inconscient collectif de ces tribus qui, aujourd'hui, veulent crier vengeance. « Pour comprendre cette force qui les transcende, il nous faut revenir à la fin du mois de décembre 1890. Nous retrouvons le chef Bigfoot et ses compagnons qui font face au 7e régiment de cavalerie. Oh, extérieurement, le vieil Indien semble apaisé. Mais il est enragé. Il sent la tension dans l'air, les regards sombres autour de lui. Les soldats qui encerclent ses hommes et son village ont l'air grave, pensif. Les doigts sont sur les gâchettes des fusils. Les chapeaux sont enfoncés sur les crânes. Les officiers chuchotent entre eux et, finalement, viennent chercher Bigfoot pour parler. Ils souhaitent avant tout que la tribu soit désarmée. L'Amérindien est ahuri. Ils n'ont que quelques armes qui leur servent à se défendre et surtout à chasser. Mais face à la supériorité en nombre du régiment de cavalerie en face de lui, il n'a pas d'autre choix. Il leur laisse l'accès au tipi. Lui n'a pas le droit de bouger. Il doit rester assis en cercle avec les autres et se laisser dépouiller en silence. À cette époque déjà, les abus de pouvoir sont légion, d'autant plus quand on a du sang de natif qui coule dans ses veines. Enfin, voilà que le colonel arrive. Le manteau recouvert de neige, les moustaches totalement gelées. Il annonce aux Indiens qu'ils vont devoir changer de campement. C'est certainement par peur de les voir rejoindre ceux qui pratiquent la danse des esprits, les disciples de Wilson. Et ça, personne ne leur dit. Pourtant, ils ne sont pas idiots, les natifs. Ils le comprennent et par provocation, certains d'entre eux commencent à chanter l'air de cette danse rituelle. La suite des événements est soumise à caution. Certains officiers auraient dit qu'un coup de feu malheureux aurait fait dégénérer par la suite les affrontements. Les natifs, eux, n'ont tout bonnement pas eu voix au chapitre au moment de l'enquête. La vérité se perd donc quelque part entre tous ces acteurs présents dans la neige. Quoi qu'il se soit passé, un premier coup de feu part dans les rangs, suivi de beaucoup d'autres. Les natifs en cercle s'effondrent, certains soldats aussi. Qui a tiré le premier? Personne. Personne ne le saura jamais. Qui a tué les hommes du 7e de cavalerie? Personne ne peut le dire non plus. Ce que tout le monde peut voir, en revanche, c'est l'ampleur d'un massacre qui va hanter toutes les mémoires. Fusils, canons et même mitrailleuses. Tout sera utilisé à foison. On ne compte pas ici en minutes, mais bien en heures de tir. Les survivants ont les tympans explosés. Certains soldats saignent des oreilles. Le sol, encore immaculé de neige peu de temps auparavant, est totalement couvert de cadavres. Une rivière de sang coule à Wanditney. On essaie de rassembler les corps. Certains sont retrouvés à près de 5 km du camp. Vous imaginez, 5 km. C'est un véritable carnage innommable. Comme si massacrer les natifs n'était pas suffisant, certains soldats iront jusqu'à dépouiller les corps de leurs vêtements d'Indiens avant de les balancer sans ménagement dans une fosse commune creusée à cet effet. Plus de 300 membres de la tribu trouvent la mort. Tout de suite, la portée de l'événement est immense, tant sur un plan humain que symbolique. Une tragédie pour la tribu Lakota et pour toutes les autres. Le visage pâle a encore frappé, en plein cœur d'une communauté dont l'âme saigne depuis trop longtemps, sans que personne ne bouge. Mais ça, c'était valable jusqu'en 1973 et jusqu'à la prise en otage de la petite communauté qui vit à Wanditney, sur les lieux mêmes de ce massacre. D'ailleurs, nous y retournons. Nous sommes de retour en 1973, le 11 mars maintenant. Le village de Wanditney est toujours aux mains de l'AIM et, comme l'étaient leurs ancêtres, 83 ans auparavant, voilà les natifs cernés par les troupes fédérales avec lesquelles ils échangent des coups de feu. Pour le moment, pas de mort à déplorer, mais juste quelques blessés de part et d'autre. Mais aujourd'hui, après 15 jours d'une guérilla quotidienne et de tensions extrêmes, les choses vont un peu évoluer. Au travers de tout le pays, de nombreuses personnes découvrant la lutte menée par les Amérindiens ont été touchées par leur volonté de vivre dignement. Ces personnes convergent en masse vers le lieu de l'action, se rassemblent sur la route et sont bientôt tout près d'atteindre la petite bourgade. Les troupes fédérales sont estomaquées. Les visiteurs sont nombreux et surtout, ont les bras chargés de cadeaux et de vivres. Impossible de les bloquer. On les laisse donc passer. Les natifs, tous très touchés par ces présents, repassent en position de force. Maintenant qu'ils ont à manger et à boire en grande quantité, ils peuvent tenir. Le leader du mouvement, Russell Means, se décide à aller encore plus loin pour forcer la main du gouvernement. Il déclare, dans un communiqué de presse assez lunaire, l'indépendance du territoire de Wanditni au cœur même des États-Unis, rien que ça. Et l'annonce n'est pas qu'une parole en l'air, non. Cela s'accompagne de l'annonce d'un modèle de société à part entière. Un service de santé et un hôpital sont ouverts. Une cantine communautaire où le partage est roi devient le point central d'une zone qui, rappelons-le à toute fin utile, est assiégée. D'ailleurs, certains des chefs spirituels de l'AIM organisent des danses des esprits, les mêmes que celles qui ont valu à leurs ancêtres de presque tous mourir plus de trois quarts de siècle plus tôt. Il serait absurde de dire que l'ambiance s'apaise, ce serait mentir. Et ce n'est pas le dénommé Frank Clearwater qui, quelques jours plus tard, dira le contraire. Alors qu'il se repose dans l'église, une balle perdue tirée par les autorités l'atteint et vient lui ôter la vie. Il dormait sur un lit de camp. Il ne sera pas le seul à mourir. Un deuxième Amérindien trouve la mort après un échange de coups de feu. La situation, début mai 1973, est intenable pour les assiégés. Les réserves sont presque épuisées. Ils menacent d'attaquer. Le gouvernement leur promet alors que s'ils acceptent de se rendre, leurs revendications seront écoutées et acceptées. C'est inespéré. Means et le board de l'AIM acceptent sous ces conditions. Mais ils ne sont pas idiots. Ils prévoient leur reddition pour le 8 mai au matin. L'étau se relâche instantanément du côté des autorités. Means sait très bien ce qu'il attend. Il sera arrêté et jeté en prison si jamais il se rend. Alors, les Amérindiens vont tenter un ultime tour de passe-passe. Ils s'enfuient et disparaissent dans la nuit du Dakota du Sud. Le lendemain matin, lorsque le FBI débarque en force dans les rues du village, ils sont accueillis par le vent et un petit mot laissé sur une table. Rien d'autre. C'est la fin du premier acte. Oh, rassurez-vous. Comme dans toute bonne tragédie, un deuxième est en préparation.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, l'heure H part aux États-Unis, au cœur des grandes plaines du Dakota du Sud. Elle concerne un endroit que les Amérindiens maudissent plus que tous les autres, Wanditni. En 1890, dans des circonstances qui n'ont jamais vraiment pu être éclaircies, plusieurs centaines de natifs se sont fait massacrer par le 7e régiment de cavalerie américain, dans un véritable bain de sang. Et près de 83 ans plus tard, un mouvement de révolte amérindien s'est emparé par la force de la même petite colonie pendant 71 jours. Ces leaders, qui furent arrêtés, vont maintenant être jugés. C'est toute la réserve de Pine Ridge qui retient son souffle. La couverture médiatique, elle, est nationale. Nous sommes le 16 septembre 1973, soit 7 mois après le début de l'assaut sur le village de Wanditni. Tous les protagonistes de la prise d'otage ont été arrêtés. La Cour de justice du Dakota du Sud a été mandatée pour juger les responsables de l'IM. Parmi eux, notre héros, Russell Means. Alors que tout le monde s'attend à une condamnation sèche et sans pitié des rebelles natifs, on assiste à un énorme coup de théâtre. Tenez-vous bien. Tous les prévenus sont relaxés, sans qu'aucune charge ne soit retenue contre eux. Tout cela découle des abus qui ont eu lieu lors de l'enquête. C'est un juge fédéral qui en a décidé ainsi, au regard du traitement illégal des preuves par le gouvernement et à cause de la manière dont ont été traités les inculpés. C'est déjà une première victoire pour les natifs et pour l'IM, qui attend maintenant que le gouvernement fasse sa part. De 1. Qu'il admette ses erreurs. Et de 2. Qu'il tienne parole quant à ce qui a été promis en échange de la reddition. Mais les pauvres natifs ne sont pas au bout de leur peine. Loin de là. Rien n'est fait de la part des gouvernants. Bien au contraire. La réserve de Pine Ridge retombe de plus belle dans une violence aveugle et misère crasse durant la fin des 70s et des 80s. Une catastrophe. L'IM, donc, se rebelle encore. En 1975, deux agents du FBI et un natif s'entretuent dans une fusillade. L'association, dont les principaux leaders se trouvent rapidement en prison pour diverses actions, est contrainte de se dissoudre au début des années 1980. Quelques bandes locales subsistent et tentent des actions coup de poing, surtout dans ce même Dakota du Sud. Officiellement, le Congrès américain n'a pris aucune disposition pour reconnaître ses erreurs dans la gestion des traités avec les tribus. Quelques procès majoritairement remportés par les tribus se sont tenus sur des questions spécifiquement territoriales, mais globalement. Le gouvernement se lave les mains de ce qu'il se passe dans ses réserves, où toujours aujourd'hui, la pauvreté et la misère règnent en maître. Et Russell Means, dans tout ça ? Ah, lui, contrairement à beaucoup d'autres, échappa à la prison. En fait, il s'est même lancé en politique, tentant l'élection de gouverneur du Nouveau-Mexique en 2002. Il décrocha même dans les années 1990 plusieurs rôles de natifs dans des films, dont, excusez du peu, Le Dernier des Mohicans. Pas si mal, non ? Il ne cessa de défendre les intérêts de sa communauté et est décédé d'une crise cardiaque le 12 octobre 2012 à l'âge de 72 ans. Fin de la première histoire. La mort de Means, en effet, ne résout en rien le mystère qui plane sur Juan Dutney depuis plus de 130 ans. Alors, est-il utopiste aujourd'hui de pouvoir enfin trouver la vérité ? Peut-être pas. De nouvelles études ont visiblement réussi à percer une partie du mystère. Dès les premiers échos des événements de Juan Dutney à la fin de l'année 1890, des voix se sont élevées contre le qualificatif de bataille. L'enquête, bâclée, a conclu à un malheureux accident provoqué par les natifs qui auraient caché des armes dans les tipis et auraient tiré les premiers. Mais deux problèmes se posent avec cette théorie. De un, les enquêteurs n'interrogeront que les officiers du 7e régiment, pas la troupe qui était au cœur du feu meurtrier. De deux, les survivants Lakota ne sont pas interrogés non plus. Pourtant, quand on prend le temps d'analyser ce qui ressort de ce qu'ils ont vu et vécu, les conclusions à tirer sont différentes. En effet, les natifs auraient été mis en cercle, les soldats derrière eux. Ils ne sont donc à ce moment-là pas armés. Le régiment, qui lui possède des canons et de quoi envoyer en enfer un sacré paquet d'individus, est tendu. Considérablement tendu. Il veut éviter un piège, certainement. Et au premier élément inhabituel, il tire dans le tas, véritablement. On sait déjà, grâce à de nombreuses photos prises sur le moment, que certains hommes seront tués dans le campement. D'autres à l'écart, comme Bigfoot. Son corps est retrouvé à moitié assis dans une neige fraîche. Le sort des femmes et des enfants n'aura pas été meilleur. Et là encore, la théorie d'un incident malheureux ne tient pas. Regroupés ailleurs, ils arrivent en masse à s'enfuir et à quitter le camp. Et le 7e régiment va les poursuivre dans la neige, les traquer et les massacrer. Vous allez me dire là aussi que les gamins ont tiré sur les soldats. Il a tout de même peu de chance. Mais pourtant, 25 soldats du régiment sont tués et 39 sont blessés. Alors quoi ? Quoi, les Amérindiens ont répliqué ? Visiblement pas. Les soldats de part et d'autre du cercle, regroupant les natifs, se sont tirés dessus, tout simplement. Une véritable tragédie dans tous les sens, donc. Pourtant, fiers de ce succès militaire de grande ampleur, c'est comme ça qu'on appelle un massacre. Le gouvernement américain va remettre 20 médailles d'honneur aux membres du régiment présents à Wounded Knee, tout en renvoyant le colonel du régiment. Assez incompatible. Les dernières études ont provoqué de nombreuses protestations parmi les Amérindiens qui s'insurgent contre le fait que ces médailles, encore aujourd'hui, n'ont pas été révoquées. C'est d'ailleurs ce qui est réclamé et ce mouvement prend de l'ampleur. En 2021, le Sénat du Dakota du Sud adopte un projet de loi pour permettre au Congrès d'ouvrir une enquête sur ces décorations polémiques. Mais, comme pour le reste des sujets, les choses traînent. Le dossier est donc arrivé sur le bureau du président à Washington. Pas certain que les choses bougent plus vite. Une phrase du texte de loi déposé a attiré plus que les autres mon attention. Les législateurs écrivent noir sur blanc. Il est grand temps de laver cette tache dans l'histoire de notre nation. Le poids des mots. Je vous propose aujourd'hui de nous quitter avec les mots de l'un des survivants du massacre de Wounded Knee. Ils montrent à eux seuls à quel point ce qui a pu se passer au creux de l'hiver 1890 est une catastrophe absolue pour la pérennité de la souveraineté amérindienne. Et plus grave encore, que les exactions commises ont fini par tuer les dernières lueurs d'un espoir de dignité. Black Elk est un guérisseur Lakota, une figure connue et respectée de la tribu de Bigfoot. Par miracle, alors qu'il est visé à plusieurs reprises, il échappe au massacre. Il écrira ses souvenirs à la suite de ce tragique moment de son parcours de vie et les ponctuera de ces mots. Je ne mesurais pas à l'époque ce qui venait de s'achever. Le cercle de la nation est brisé, éparpillé. Il n'y a plus de centre et l'arbre sacré est mort. Le poids des mots, encore. Wounded Knee, en tous les cas, n'a pas encore révélé tous ses secrets et continue de vivre, 130 ans après, dans l'obscurité et le malheur. Voilà pour ce récit que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume de Valjean.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.